Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Amen.
Voilà, bienvenue à tous, spécialement à ceux qui nous rejoignent. Petit salut à ceux qui viennent de la paroisse Sainte-Anne. Alors, il y a ceux qui viennent des Buttes-Chaumont qui vont virer nous, mais ils savent qu'on se voit déjà et on est heureux de se revoir. Donc, les Buttes-Chaumont, Sainte-Anne et tous les autres. Voilà, je ne vais pas faire de privilégiés, donc je m'arrête là. Mais je suis heureux de vous voir pour cette... le deuxième cours, la dernière fois c'était la présentation de l'évangile. Aujourd'hui nous allons voir tout simplement le premier chapitre à partir du verset 5, puisque vous vous souvenez que les quatre premiers versets étaient introductifs, servaient de préface à l'œuvre, nous présenter, nous expliquer quel était le projet de l'évangéliste, confirmer la foi de Théophile à partir du témoignage rendu aux paroles et aux actes accomplis par Jésus. Nous commençons donc par l'annonciation, plus précisément les deux annonces, l'annonce à Zacharie et l'annonce à Marie, et puis la visitation. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne dis pas ça pour m'exonérer, enfin me justifier de toutes les imperfections de ce que je vais dire, mais c'est vrai que ce n'est pas le passage le plus facile. Vous allez le voir, parce que c'est un chapitre, hein, comme le chapitre 2, ce sont deux chapitres qui sont d'une très très grande densité. On voit la différence avec des récits, par exemple dans l'Ancien Testament, qui on suit le fil et on se dit c'est pas la peine de s'arrêter à chaque verset. Là, au chapitre 1, chaque verset, chaque mot demanderait qu'on y reste très longtemps. Alors nous ne le ferons pas, mais nous essaierons quand même d'explorer ce texte en essayant de voir ce qu'il nous enseigne, hein, en ayant bien en perspective que le cours suivant fait corps avec ce que nous allons voir aujourd'hui. Les chapitres 1 et 2 forment vraiment un tout. Je ne dis pas ça pour m'assurer que vous reviendrez la prochaine fois, mais après vous pourrez partir, mais il y a vraiment une unité. Voilà, donc les deux annonces, ensuite la visitation, et troisième partie, je ne peux pas ne pas dire un mot sur les citations de l'Ancien Testament, sur le statut, hein, de la parole, des Écritures, ce prologue de l'évangile selon saint Luc. Tout d'abord, les deux annonces. Saint Luc met en parallèle les figures de Jean, le précurseur, et de Jésus, le sauveur. Malheureusement, j'ai dû renoncer à travailler sur ce parallèle qui est extrêmement éclairant, qui mériterait peut-être une séance à elle seule. Je le signale simplement parce qu'on va voir avec l'annonce à Zacharie et l'annonce à Marie qu'il y a en parallèle deux récits qui s'éclairent mutuellement, mais il y a toute la partie de la naissance de Jean et le Bénédictus dont je ne parlerai pas, mais qui évidemment sont très très éclairants. Nous nous en tenons juste aux deux annonces, celle de l'annonce de Jean et celle de la naissance de Jésus. Alors l'annonce à Zacharie. Saint Luc commence par cette annonce faite à Zacharie. Il nous plonge d'emblée dans un cadre profondément juif. À peu près à chaque séance, vous m'entendez dire que Jésus est juif, né dans un contexte juif, et qu'on ne peut pas comprendre l'évangile en dehors de ce contexte juif. C'est pas uniquement pour le décor, c'est pas uniquement des circonstances parce qu'il fallait bien qu'il naisse en un endroit, il ne pouvait pas faire autrement. Non, ça colore très profondément toute la pensée de Saint Luc, tout le texte évangélique. Hein, et de façon assez forte, Luc souligne la valeur des grandes institutions d'Israël, le sacerdoce, le temple de Jérusalem, et la loi. D'ailleurs, quand on dit le sacerdoce, c'est toujours en lien avec le temple de Jérusalem. Il n'y a pas le sacerdoce s'exerce uniquement au temple de Jérusalem et la loi. Il précise que Zacharie est prêtre et que sa femme Élisabeth est une descendance d'Aaron. Vous savez qu'Aaron, c'était le grand prêtre de la tribu de Lévi, et tous les prêtres qui officient au temple de Jérusalem sont de la tribu de Lévi et particulièrement de la descendance d'Aaron. Saint Luc nous dit également que c'était des justes, Alors, les habitués de l'écriture que vous êtes, hein, pour qui l'évangile n'a aucun secret, savent que quand on dit « c'était des justes », vous savez ce que ça veut dire, hein, ça veut dire qu'ils suivaient la loi du Seigneur de façon très, très, très profonde, très scrupuleuse. Hein, et Saint Luc ajoute même qu'il le faisait d'une manière irréprochable. Donc il y a une insistance sur ce qu'on pourrait appeler la piété, au sens le plus noble, de Zacharie et Élisabeth. Donc il nous donne ce qu'il y a de meilleur dans le judaïsme. C'est dans ce cadre, bien posé par Saint Luc, que on va voir Zacharie remplir ses fonctions sacerdotales dans le temple de Jérusalem. Et c'est là que va lui apparaître Gabriel. La scène est assez grandiose. Si on prend le temps de lire attentivement, il faut reconnaître qu'en général, on lit l'annonciation à Marie, à Nazareth, on lit plus rarement l'annonce à Zacharie. Qu'est-ce qui avait déjà lu l'annonce à Zacharie? Voilà. Qui a découvert l'annonce à Zacharie? Parce que j'ai... Voilà. Et il y en a qui n'ont levé le doigt ni à l'un ni à l'autre. Donc, ils ne l'ont lu ni ne l'ont pas lu. Hein, c'est une indifférence absolue. Je vois que c'est le maximum. Mais en revanche, qui a lu ou qui connaissait le texte de l'Annonciation? Voilà, là, à peu près tout le monde. Et d'autres qui ne lèvent pas le doigt parce qu'ils disent qu'on estime que c'est tellement connu. Voilà. Eh bien, ce texte mérite d'être lu attentivement. C'est ce que nous faisons. Parce que nous avons un cadre très différent de celui de l'annonce à Marie. Hein. Il faut se figurer le temple de Jérusalem, hein, dont on dit que c'était le plus beau monument de toute l'Antiquité. Hein. Il entre seul dans le sanctuaire, ce qui est un peu une anomalie, parce que normalement, les prêtres officiaient par groupe de cinq. Hein. Il entre pour faire brûler l'encens, et toute la foule est dehors en prière. Il faut bien se rendre compte que Zacharie voit la foule qui est là, il monte sur les marches, et donc c'est assez impressionnant, il est porté par cette prière et il entre seul dans le sanctuaire. Donc vous avez d'abord ce qu'on appelle le vestibule, hein, avec le voile comme ça, qu'on passe à travers. Il y a le saint, hein, le débir, hein, qui est le hécal, pardon, hein, qui est le lieu où il y a les tables avec les pains de proposition, où il y a la table de l'encens. Hein, où on fait brûler l'encens, hein, devant la présence, hein, de Dieu, devant la Shekinah, qui, elle, est derrière une espèce de très grande porte qu'on ne traverse jamais. Et là, c'est le débir, hein, le Saint des Saints, hein, le lieu où Dieu se manifeste finalement dans cette obscurité. Voilà, donc c'est très, très solennel. Et c'est au moment où il s'avance pour... brûlé de l'encens, donc vous avez des charbons qui sont là déjà en place, il y a le feu perpétuel, et puis on met l'encens. Alors c'est pas du tout comme aujourd'hui, on fait comme ça, puis attention, parce que ça, moi, je me souviens, le cardinal Lustiger, j'étais séminariste un peu, j'étais turiféraire, et je comprenais pas ce qu'il me disait, tu me brûles, alors, et donc je comprenais pas le geste, mais il y avait une toute petite cuillère, hein, ceux qui ont fait de la liturgie, ils savent, une toute petite cuillère, et on met de l'encens comme ça. Alors ça fait de la fumée et des personnes, évidemment, on comprend, qui ont mal aux poumons, vont dire, mais il y a trop d'encens, ça brûle. D'accord, on fait attention, et puis surtout si on brûle son archevêque. Voilà. Mais là, il faut imaginer que c'est l'encens, ça devait fumer, surtout que l'encens était censé couvrir, hein, l'odeur de tous les bœufs, les moutons, les béliers qu'on brûlait. Hein. Il y avait aussi peut-être un peu cette fonction. Donc il faut imaginer que ça devait donner. Hein, ça. Voilà. Ceux qui ont vu le Botafumeiro à Saint-Jacques-de-Compostelle, hein, ils ont une idée de ce que c'est qu'un gros encens. Soir, ben là, il faut imaginer que c'est encore plus grand. Il y a la table, hein, qui servait pour brûler l'encens. Donc Zacharie arrive, donc vous avez cette ambiance de prière et portée par toute la foule qui est dehors. Ben, c'est quand même très impressionnant. Et à droite de l'autel des parfums, hein, eh bien, il y a cette apparition de l'ange Gabriel pour lui annoncer la naissance d'un enfant. Alors, quelque chose d'un événement, hein, un événement. Alors évidemment, que sera cet enfant? Zacharie va se poser cette question. Hein, eh bien, on reconnaît aux paroles de l'ange qu'il s'agit du précurseur annoncé par le prophète Malachie. C'est quelque chose, j'anticipe sur ce que je dirais à propos du baptême, mais j'aime bien cette idée que tout l'Ancien Testament aboutit à un prophète, Malachie, en hébreu Malari, ça veut dire mon envoyé, mon ange, Malar, l'ange, mon envoyé, mon ange. Malachie, c'est celui qui dit, je vais envoyer un précurseur avec l'esprit et la puissance d'Élie. Alors le précurseur, hein, voici mon envoyé, voici mon Mal-Ari, hein, mon Malachi, hein, mon envoyé, hein, et il viendra avec la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants, hein, préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà ce que dit l'ange, c'est exactement, hein, ce sont les termes du prophète Malachi. Hein. Voilà, le précurseur, l'envoyé de Dieu. J'aime bien montrer que je vais jusqu'au bout de ma phrase, j'ouvre des parenthèses mais je ne les ferme pas. Voilà, Malachi termine l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, hein, s'ouvre sur le ministère de Jean-Baptiste. Hein. Voici mon envoyé. Ça, je le redirai au moment du baptême. Mais c'est Jean-Baptiste qui fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est l'envoyé du... Il est l'envoyé du Seigneur. Je vous rappellerai un peu plus tard. Mais il est celui qui, dans l'Ancien Testament, représente tous les prophètes, mais montre du doigt Jésus en disant « c'est lui hein ». Et de fait, quand on prend la prophétie de Malachie jusqu'au bout, chapitre 3, hein, d'ailleurs ça commence par ça, hein, le Seigneur entrera dans son sanctuaire. Hein. Le précurseur dit « ça y est, le Seigneur entre dans son sanctuaire hein. ». La naissance de Jean sera le signe de l'imminence de la venue de Dieu au milieu de son peuple. Voilà. Alors, évidemment, je crois qu'il y a un contenu qui est très très fort dans cette annonce de l'ange. Hein, la stérilité d'Élisabeth et la vieillesse du couple, deux arguments, pour conduire Zacharie, enfin, pour Zacharie est libre, mais il ne donne pas foi à l'annonce de l'ange. Hein, sa femme est stérile et le couple est âgé. Hein, alors évidemment, à cette époque-là, on était âgé beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Hein. Mais il n'empêche que Zacharie se dit « ce n'est pas possible hein. ». Et l'ange lui déclare qu'il deviendra muet jusqu'à la naissance de son fils. Hein. Son mutisme, difficile de dire le contraire, est une punition. Hein, mais ce n'est pas simplement une punition. Hein. C'est surtout une préparation à la naissance de Jean. De la même manière, à la fin de ce récit, de l'annonce à Zacharie, il y a la retraite d'Élisabeth pendant les 5 premiers mois de grossesse. Hein, elle se tenait à l'écart. Hein, elle se tenait dans cette retraite comme pour se préparer à la naissance de Jean. Donc silence du père, retraite de la mère, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui va demander ce temps. Et finalement, l'ange donne à Zacharie le moyen de cette préparation. Alors vous imaginez cette scène où les gens se disent « mais qu'est-ce qui se passe ? Il ne sort pas hein ?» Il finit par sortir. Le peuple attend une bénédiction. Vous savez que le propre du prêtre, c'est de bénir. C'est ça, sa fonction. Hein, lisez Nombre chapitre 6. Hein, le prêtre est celui qui bénit. Hein, Aaron est celui qui prononce la bénédiction sur le peuple. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Mais évidemment, il est muet et donc il ne peut pas accomplir cette fonction sacerdotale de bénir. Il est incapable de donner cette bénédiction. Souvenez-vous-en parce que dans la suite de l'Évangile, ça reviendra, cette question. Hein. En lui, on peut dire, dans une lecture un peu symbolique, que les anciennes institutions d'Israël se taisent. Non pas, elles disparaissent, elles ne disparaissent pas, mais elles se taisent dans l'attente d'une nouveauté qui viendra de Dieu seul. Ces institutions, d'une certaine manière, ont porté cette nouveauté. Mais vient le temps où, d'elles-mêmes, elles se taisent, le prêtre se tait, la bénédiction n'est pas donnée. Hein, il y a une attente, Dieu va intervenir, il va entrer dans son temple, hein, comme dit le prophète Malachie. Quand Dieu interviendra, alors évidemment, hein, là, Zacharie retrouvera la parole et il bénira le Seigneur. Et c'est le Bénédictus. Hein, il retrouve la parole au moment de la naissance de Jean, Dieu est intervenu, et là, il chante cette bénédiction. Voilà pour l'annonce à Zacharie. Et alors, si on passe à l'annonce à Marie, il y a un changement de lieu, un changement de climat, un changement d'ambiance assez marqué. Hein. C'est le même ange qui apparaît, qui permet de faire ce parallèle. Hein. D'ailleurs, on peut s'amuser à faire une étude littéraire, c'est pas très compliqué. Le parallèle est tout à fait net entre les deux récits. Mais les circonstances sont profondément différentes. Tout dans le récit de l'Annonciation est empreint d'une grande discrétion qui contraste fortement avec la grandeur de l'événement annoncé, de l'enfant qui va naître. Il y a un contraste avec cette discrétion absolue. Luc doit indiquer le lieu où la scène se déroule, ce qui laisse entendre que le lieu n'était pas connu. L'enfant va naître à... Je ne sais pas si je vous dis, l'enfant va naître à Sainte-Félicité à Paris. Pas besoin d'explication. L'enfant va naître à Sainte-Ursule, les Trois Noisettes. Vous repérez Sainte-Ursule, les Trois Noisettes. Il y en a au moins un qui connaît. Les autres, vous ne connaissez pas Sainte-Ursule, les Trois Noisettes? Eh bien, excusez-moi, mais c'est dommage. Tant pis, on va continuer. Nazareth, c'est un peu ça. C'est un peu Sainte-Ursule, les Trois Noisettes. Comment Saint-Luc s'y prend? Il dit une ville de Galilée. Donc, vous serez plus éclairé si je vous dis une petite ville de Bourgogne. Petit village de Bourgogne, qui s'appelle, vous ne connaissez pas, mais c'est Sainte-Ursule et Trois Noisettes. Là, vous allez dire, ah oui, d'accord, je comprends un peu mieux. Parce que si je vous dis Sainte-Ursule et Trois Noisettes, ah bon, les autres connaissent, moi je ne connais pas. Là, dans l'Évangile, Luc montre avec un certain talent que Nazareth n'est pas connu. Même modestie dans la présentation de celle à qui l'ange apparaît. Il s'agit, alors écoutez bien, une vierge, le thème est très beau parce qu'il nous ramène à l'Ancien Testament. Mais l'identité de la personne, on ne sait pas, une vierge, fiancée à un homme, d'accord, du nom de Joseph, on connaît le nom du fiancé, de la maison de David, on sait quelle est sa tribu, mais on ne connaît toujours pas le nom de la vierge, on ne connaît toujours pas celle qui est bénéficiaire de l'apparition. C'est à la fin de la phrase, et le nom de la vierge était Marie. Alors on peut y voir toute la révérence de l'ange, quelque chose d'extrêmement beau. Dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, il y a une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge... Jusque-là, on ne connaît toujours pas son nom. Quelle belle préparation! Mais ça veut dire aussi que Marie vient vraiment en dernier. L'humilité de Marie, et on ne sait rien de sa vie religieuse. On ne nous dit pas qu'elle était juste, et que même elle observait la loi très scrupuleusement. On n'en dit rien. On ne sait rien de sa vie religieuse. On spécule beaucoup. On devine, quand on entend le Magnificat, qu'elle connaissait bien les Écritures. Mais on n'a pas beaucoup d'éléments. Quand même pas beaucoup d'éléments. Voilà. Humilité de Marie. L'ange annonce à Marie qu'elle mettra au monde un fils. Marie va acquiescer, mais demande d'abord à comprendre. Voilà. Comment cela se fera-t-il? Alors là, déjà, on réagit en disant, c'est quand même pas juste. Zacharie aussi avait interrogé l'ange. Enfin, si vous êtes déjà posé la question, quand même pas très normal. Alors, plusieurs interprétations, il y en a qui disent, c'est encore les femmes qui sont privilégiées, ou est-ce que Zacharie aurait fait quelque chose de mal, ou... Voilà. Je crois que le texte répond par lui-même à la question. Les deux questions ne sont pas les mêmes. Marie demande comment cela se fera. Comment cela se fera. Ça se fera, mais comment? Oui. La question de Zacharie est différente. Zacharie avait prié pour avoir un enfant. Marie n'a pas prié pour avoir un enfant. Zacharie demandait un enfant.
Elle n'a pas le même âge.
Voilà, on peut essayer de mettre du psychologie. Elle n'a pas le même âge. J'allais dire qu'une jeune fille veuille avoir un enfant, on peut s'y attendre. Voilà. Marie n'a pas demandé à avoir un enfant. Et elle est vierge. Donc, une source d'étonnement, d'une certaine manière. Elle n'a rien demandé à Dieu. Dieu répond favorablement à Zacharie. Et Zacharie, alors qu'il avait demandé, « Tu me demandes un enfant, je te le donne. Ah oui, mais donne-moi un signe. Donne-moi un signe. » Ça, dans l'Ancien Testament, ça veut dire il y a un manque de foi. Je renvoie souvent à l'histoire de Jacob, tellement, tellement savoureuse. C'est bien Jacob. Non, c'est Eliezer, celui qui est envoyé par Abraham pour trouver un fils pour Isaac. Je crois que j'avais déjà raconté, quand Eliezer arrive près du puits, il dit, voilà, si à 6 heures du soir, je vois arriver une femme avec de grandes boucles d'oreilles, 3 chameaux, qu'elle puise l'eau et qu'elle m'interroge, Je me dirais, c'est le signe, Seigneur, que tu m'as donné que c'est bien elle qui est choisie pour femme. Tac. Alors il attend. 6 heures du soir, arrive avec une femme, avec des grandes boucles d'oreilles, 3 chameaux, elle puise de l'eau, elle s'adresse à lui. Eliezer l'a regardé perplexe. C'est extraordinaire. Est-ce que c'est bien elle que le Seigneur m'envoie? Alors, le Seigneur qui dit, quelque chose ne va pas, Eliezer? Oui, attends, Seigneur, j'aimerais bien un signe un petit peu plus... Seigneur, d'accord, voilà, hein, c'est ouais, un petit peu ça. Hein. À quel signe vais-je voir que c'est vraiment ça? Je te demande, oui, mais j'en veux encore un peu plus. Voilà. Hein, le manque de foi, hein, de fait, l'ange lui dit, tu n'as pas cru, eh bien, tu te tairas. Hein. Peut-être que Zacharie doutait de sa propre prière. Hein, c'est vrai que sa femme était stérile, que tous deux étaient avancés en âge. Marie était vierge, comme je l'ai dit, son étonnement est quand même légitime. Mais Zacharie, lui, il est prêtre, et un prêtre, c'est d'abord quelqu'un qui donne la Torah, c'est quelqu'un qui connaît les Écritures, c'est quelqu'un qui a la mémoire. Hein, sa mission, c'est d'avoir la mémoire d'Israël. Il est censé connaître mieux que quiconque la loi et les prophètes, puisqu'il enseigne. Et il sait que Dieu accomplit sa promesse par des femmes stériles. Hein, il y a une quantité de femmes stériles dans l'Ancien Testament. Hein, Anne, la femme d'Elkana, qui va donner naissance à Samuel. Sarah, la femme d'Abraham, etc. Hein, il n'a manifestement pas de mémoire. Il y a peut-être un petit jeu de mots subtil sur le nom Zacharie, hein, qui veut dire ma mémoire, hein, ce dont je me souviens. Voilà. Hein, deuxième raison de la punition, hein, manque de foi, pas de mémoire du prêtre Zacharie. Il n'empêche qu'il va recevoir cet enfant. L'ange dévoile progressivement quelle sera son identité. Il le fait en renvoyant aux promesses messianiques de l'Ancien Testament. Hein, je cite. Voilà, hein, Marie, qui visiblement connaît les Écritures, est capable de comprendre hein, ce que dit l'ange. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Là, on a de façon très claire une référence à la prophétie de Nathan, le prophète hein, de David. Hein, quand David disait « Je vais construire un temple pour le Seigneur » parce que l'arche est sous la tente et ce n'est pas tolérable. Le roi dort dans une maison en dur et pas l'arche. Et le Seigneur, c'est très très beau ce texte-là, hein, le Seigneur lui rappelle que c'est lui qui construira une maison, un temple. Un temple, un temple en hébreu, c'est bayt, la maison. Et au descendant de David, qui sera roi, qui règnera, hein, que Dieu va construire d'une certaine manière, parce qu'il va construire cette maison, cette lignée, cette famille, j'affermirai pour toujours son trône royal, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Hein. Mais dans les paroles de l'ange, hein, le terme de fils vient avant celui de trône de David. Hein, c'est pas je le mettrai sur le trône et je le considérerai comme un fils. Hein, dans la bouche de l'ange, c'est il sera le fils du Très-Haut, hein, de manière absolue, il sera fils du Très-Haut. Et parce qu'il est fils, il recevra le trône de David. Ce qui est premier, c'est la filiation, hein, dans cette manière de lire l'Écriture. Il recevra cette royauté, non pas en raison de son insertion dans une lignée davidique, mais en raison de son être de fils. L'ange confirme d'ailleurs hein, que celui qui naîtra sera plus que le Messie, le roi qui doit régner sur Israël. Hein, l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Donc là, il y a une révélation qui est très forte, qui est confirmée d'ailleurs par deux autres références bibliques qui apparaissent, j'allais dire en filigrane, derrière ces paroles. Nathan avait averti David que ce ne serait pas lui, mais Dieu qui construirait un temple. David avait dit, Seigneur, l'arche est sous la tente, c'est pas normal, je vais te construire une maison. Très gentil, David, t'es vraiment très gentil. Voilà, tu vas me prendre en charge, tu vas prendre soin de moi, très gentil, ça me va droit au cœur. Seulement, David, je voudrais te rappeler quelque chose. C'est qu'à l'origine, n'oublie pas, tu étais le septième d'une famille de bergers, tu étais petit berger, auprès des moutons, c'est moi qui t'ai tiré des parcs à moutons. C'est moi qui t'ai donné l'onction, c'est moi qui t'ai mis roi sur Israël. C'est moi qui t'ai donné le pouvoir. Tu vois ? C'est moi qui prends soin de toi. Alors, tu es très gentil, mais c'est moi qui vais te construire une maison. Je vais te donner une descendance. David se rend compte que... Oui, Seigneur, ça va, j'ai compris. Voilà, ça, c'est la grandeur de David. C'est qu'il est un peu... C'est un tempérament assez fort, mais il comprend qu'il est loin le Messie du Seigneur, mais qu'il est son Messie. Il n'est pas celui qui décide pour le Seigneur. Il est celui qui est choisi par le Seigneur. C'est le Seigneur qui prend l'initiative. C'est lui qui va donner une descendance. C'est lui qui va construire une maison. Le Seigneur remet les choses en place. Et on peut dire que cette prophétie s'accomplit avec Jésus. Ça, c'est très important, toute la théologie du Messie qui est contenue dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas l'homme par lui-même qui prend les choses en charge, il se laisse oindre par Dieu. Dieu fait sa demeure en Marie, de la même manière qu'il a choisi de demeurer dans son temple. L'Esprit Saint te prendra sous son ombre. Là, il y a une allusion à la prise de possession du sanctuaire par Dieu, lors de son achèvement par Moïse, dans l'expression « l'Esprit Saint te prendra sous son ombre », de la même manière, la nuée a pris sous son ombre le temple, la tente du témoignage. C'est le même terme dans la Septante qui apparaît. L'Esprit Saint vient en Marie. Marie est sous l'ombre de l'Esprit Saint, de la même manière que le temple a été sous l'ombre dans la nuée, la présence de Dieu. Il y a une référence donc à cette scène très solennelle en Exode chapitre 40, quand Dieu vient prendre possession de son temple, quand il vient habiter au milieu de son peuple. L'autre référence, elle apparaît assez clairement dans la salutation de l'ange. Je vais citer le prophète Sophonie. Voilà ce que dit le prophète Sophonie. « Exulte, fille de Sion, réjouis-toi, le Seigneur est roi d'Israël au milieu de toi, héros sauveur, sois sans crainte, Sion. » On retrouve exactement les mêmes termes, organisés de façon un peu différente, dans l'annonce de l'ange à Marie. « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Réjouis-toi, le Seigneur est au milieu de toi, il est avec toi. « Sois sans crainte, sois sans crainte. » Tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. Donc, Jésus en hébreu, c'est Dieu sauveur, le Seigneur sauve. Il régnera sur la maison de Jacob. Marie apparaît ici, à travers cette citation du prophète Sophonie, comme la nouvelle Sion qui accueille en son sein le sauveur. Vous voyez qu'il y a cette superposition, je reviendrai tout à l'heure dessus, de plusieurs thèmes bibliques qui convergent tous pour montrer deux choses. C'est d'une part... que Jésus est bien le Messie annoncé, qui a cette fonction royale, mais plus que cela, il est Dieu lui-même. Il est cette nuée qui vient au milieu du peuple, cette présence de Dieu, cette Shekinah, par laquelle Dieu vient habiter au milieu de nous. C'est ça, cette rencontre entre la divinité et l'humanité qui se réalise en Marie. Alors nous arrivons... après, à la visitation. Voilà. Ce qui est agréable au moins, c'est que ça fait beaucoup de choses, mais ça vous permet de voyager. Ceux qui sont allés en Terre Sainte étaient à Jérusalem tout à l'heure, le temple était somptueux. Là, on est à Saint-Ursule-les-Trois-Noisettes, à Nazareth. C'est bien, on voyage beaucoup plus au nord, et on va redescendre du côté de Jérusalem. Vous imaginez, Marie, sur son petit âne, toc-toc-toc-toc, comme ça, à peu près, 3 jours, 4 jours, à Dodane, il faut peut-être 2-3 jours, on est d'accord, à peu près, ceux qui connaissent, on voit bien les paysages, on traverse la Samarie, ou plutôt on évite, et on arrive dans le petit village d'Aïn Karem, qui est le lieu de la visitation. Marie part visiter sa cousine Élisabeth, qui attend son fils depuis 6 mois, Le récit de la visitation se poursuit avec le Magnificat que j'évoquerai tout à l'heure, toujours centré sur la venue de Jésus en Marie. Tout d'abord, la rencontre entre Marie et Élisabeth. Alors là, la scène est d'une très très grande importance. Elle ne vient pas simplement après l'Annonciation, il y a une compénétration des deux récits. Parce que ce qui s'est passé à Nazareth, de manière tellement cachée dans le sein de Marie, va être nommé par le ministère, par Élisabeth. Hein, rempli de l'Esprit Saint, c'est très important, hein, c'est dans l'Esprit Saint que Élisabeth est capable de confesser, de reconnaître ce qui se passe en Marie. Le secret de Marie peut être nommé « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Petite parenthèse, l'immense délicatesse d'Élisabeth, qui dans l'Esprit Saint a reconnu que c'était Jésus, le Fils de Dieu, mais elle salue quand même Marie. Hein, « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère ?» Lui aussi, il est nommé à la fin de la phrase, de mon Seigneur. Voilà. C'est la première fois que Jésus est nommé en son existence terrestre. La première qui prononce le nom de Jésus, hein, du Seigneur, dans son existence au milieu de nous, c'est Élisabeth, qui est une fonction de reconnaissance qui est très importante. Hein. De plus, il est l'objet d'une confession, c'est-à-dire une confession de foi. Élisabeth le reconnaît comme son Seigneur. Elle l'appelle mon Seigneur. Ensuite, Élisabeth, alors ça c'est très important, salue Marie en lui disant cette parole. Alors ceux qui étaient en Terre Sainte se souviendront de ce que j'avais expliqué sur le sujet. Hein. Elle lui dit « Bénie es-tu entre les femmes et bénie le fruit de ton sein ». Très belle parole. J'imagine la douceur entre deux mamans qui se saluent, qui se disent des choses très belles. Beaucoup de douceur. Eh bien, une scène, la maternité, la douceur, etc. En réalité, c'est une révélation. C'est beaucoup plus qu'une parole très douce. Élisabeth reconnaît en Marie une de ces femmes fortes de l'Ancien Testament par qui Dieu est passé pour donner la victoire à son peuple. L'expression « Bénie es-tu entre les femmes » se trouve dans deux épisodes bibliques, deux moments où la vie d'Israël était menacée par les ennemis. Première scène, c'est Juges, chapitres 4 et 5. Je vous en recommande la lecture, surtout, vous verrez, ça vaut tous les films d'action que vous pourrez voir à la télévision ou ailleurs. Hein, il s'agit d'une bataille entre les Israélites et les Cananéens, hein, du général Sisera. Hein, le général israélite s'appelle Barak. Baraqué. Hein. Voilà. Ça ne veut pas dire baraqué, hein, si vous notez, sinon les gens vont dire, le père des premiers dit des bêtises. Voilà. Mais j'aime bien l'idée du général Barak. Ça me plaît bien. Voilà. Hein. Le Seigneur annonce au général Barak, hein, qui doit avoir, je ne sais pas combien d'étoiles il a, mais enfin, c'est un fier général. Il lui dit, voilà, c'est Israël qui va vaincre, seulement, ce n'est pas par un homme que viendra la victoire, mais par une femme. C'est dit par le Seigneur. Hein, petite pointe contre l'orgueil masculin. Hein. La guerre, c'est une affaire d'hommes. Mesdames, retournez à la maison, laissez-nous faire. Hein. Voilà. Et ça, la Bible joue beaucoup dessus. Hein. Tout le monde en prend pour son grade. Hein. C'est pas par toi que viendra la victoire, mais par une femme. Barak remporte quand même bien la victoire militaire, mais c'est une femme, Yaël, hein, qui va mettre à mort Sisera, hein, le général cananéen. Alors, d'une manière assez atroce, il y a même tous les détails, vous pourrez lire ça, hein, voilà, en lui enfonçant un pieu, hein, dans la tempe, hein, comme ça, en traversant le crâne, voilà, hein, pendant son sommeil. Après, toujours avec cette douceur féminine, il fallait dire « tu es fatigué, tu veux boire un peu de lait ?» Boire du lait, ça fait dormir. Donc, on imagine, oh, tu es bien bonne, voilà. Donc, il boit du lait, il s'endort, elle met une couverture pour le cacher, et pendant qu'il est couvert, hein, la couverture, elle prend, voilà. Et à ce moment-là, il y a Déborah, la prophétesse, hein, qui est juge et prophétesse, qui se met à chanter un cantique. Déborah, ça veut dire l'abeille, hein, voilà. Déborah chante un cantique, alors le cantique est absolument extraordinaire, hein, voilà. Je passe, mais lisez-le, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Béni entre les femmes soit Yaël, celle qui a tué Sisera. Béni entre les femmes soit Yaël, ainsi périssent tous tes ennemis, Seigneur. Béni entre les femmes soit Yaël. Le deuxième épisode, c'est l'histoire de Judith, hein, qui tranche la tête du général Holoferne. En général, on connaît un petit peu plus ce texte-là, parce qu'on connaît la peinture, hein, Caravage, ou à Rome, à la Pinacothèque. scène souvent représentée, quelques heures avant que Holoferne ne mette en œuvre son projet de destruction du peuple juif. Un cantique salue son acte courageux, voilà les mêmes termes, « Sois bénie ma fille par le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes, sois bénie plus que toutes les femmes, que toutes les femmes de la terre. » Voilà. Les paroles d'Élisabeth, comme toujours dans l'Écriture, c'est jamais au hasard, les paroles d'Élisabeth sont des paroles qui ont une connotation guerrière, sont des paroles de victoire. « Béni es-tu entre les femmes, béni entre les femmes. » Yael et Judith ont vaincu l'ennemi à la tête. Pas un hasard. C'est ce qui était annoncé dans le livre de la Genèse. La femme. Quand il est dit dans le livre des juges, c'est la femme qui vaincra. Par derrière, ce n'est pas uniquement pour une petite pique contre les hommes. La femme, ça veut dire celle qui porte la vie. C'est la mère. C'est celle qui est choisie par Dieu. C'est Ève, la vivante. Hawa. La femme vaincra le serpent tentateur. Genèse 3, 15. C'est un texte très important. La femme vaincra le serpent tentateur. Sa descendance, sa lignée, écrasera le serpent à la tête. Donc le lien entre la femme et sa lignée, c'est la maternité. C'est par sa maternité que Marie participe à cette victoire sur le démon. Vous voyez ? Marie vint le mauvais, non plus avec un pieu ou une épée, mais avec la force de Dieu. Vous voyez, il faut se méfier des lectures trop immédiatement spirituelles. On va dire, voilà, béni es-tu entre les femmes. Ou alors, par exemple, elles étaient violentes dans l'Ancien Testament, il n'y a plus la violence dans le Nouveau. D'une certaine manière, il y a toujours cette force guerrière, mais qui est celle de la foi de Marie. Il n'y a rien de plus fort que cette femme qui consent au projet de Dieu. Évidemment, dans la grande douceur de son cœur. Mais la douceur de Marie qui consent au projet de Dieu, c'est ça qui vainc le démon, qui le met en déroute, qui est encore plus fort que ce que Judith a fait ou Yaël. Voilà. Victoire par la maternité de Marie, par son consentement à la parole de Dieu. Alors, on a également dans ce récit ces références vétérotestamentaires. Marie apparaît comme une nouvelle arche d'alliance, un signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Déjà dans le récit de l'Annonciation, Marie était comparée à la tente de la rencontre. L'esprit, la nuée viendra sur toi, sur la tente de la rencontre. C'est là que l'arche d'alliance était conservée. Eh bien, ici, nous avons trois allusions plus ou moins explicites. Tout d'abord, quand Élisabeth dit à Marie « Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Ce sont les paroles de David. Comment l'arche du Seigneur entrerait-elle chez moi ? Deuxième référence, beaucoup plus indirecte, le tressaillement de Jean dans le sein de sa mère, l'enfant a bondi. Ça rappelle la danse de David devant l'arche. Petit détail, vous savez que le grec, eskirtesen, ça veut dire le verbe skirtao, ça veut dire bondir. C'est une danse où on bondit. Ça donnait le sirtaki. Mais j'aime bien penser que Jean a dansé le sirtaki dans le sein de sa maman. Courage, maman. J'ai cru deviner que pour les mamans, parmi vous qui ont eu des enfants, et ça ne doit pas toujours être reposant, fatigant, c'est ça ? Ça doit être fatigant. Mais quand l'enfant se met à danser le sirtaki, je pense que Marie doit avoir bien du courage. Voilà. Mais c'est la joie de David devant l'arche de Dieu. C'est la joie de Jean-Baptiste devant la présence du Seigneur. Eskirtesen. Voilà. Le psaume 113 aussi, qui parle des montagnes qui tressaillent devant la face de Dieu. Et puis, une autre référence, tout à fait probable, Marie demeura 3 mois auprès d'Élisabeth, allusion claire à l'arche qui demeura 3 mois dans la maison de Obed-Edom. Si vous relisez le chapitre 6 du deuxième livre de Samuel. On peut ajouter un détail géographique, plus incertain, mais le village d'Ein Karem, où la tradition situe la scène de la visitation, se trouve dans une région voisine de Kiryat Yarim, là où l'Arche d'Alliance demeura avant d'être introduite à Jérusalem. Marie, nouvelle arche d'alliance, encore une manière de désigner cette présence de Dieu, cette divinité de celui qu'elle porte en son sein. Et c'est là qu'elle se met à chanter, qu'elle loue Dieu. Elle chante non pas pour la salutation d'Élisabeth, mais pour ce qui s'est passé à Nazareth. Hein ? Le Seigneur a visité son humble servante. C'est bien Nazareth. Elle porte en elle le Fils de Dieu. Elle est, comme l'Arche d'Alliance, le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais elle ne chante pas le Magnificat à Nazareth. C'est vrai, on peut se poser la question. Après le départ de l'ange, elle se met à chanter le Seigneur. En fait, il faut que la voix d'Élisabeth ait attesté ce qui s'accomplissait en elle, que la présence divine soit reconnue, soit confessée, pour qu'il y ait cette confession de Marie, cet épanchement de joie dans le chant du Magnificat. Donc il y a cette scène de reconnaissance, et ça c'est absolument essentiel dans tout l'évangile de saint Matthieu. Il ne suffit pas de dire « le Seigneur est là », il faut qu'il soit confessé. Théologiquement, j'ai dit Matthieu, c'est ça ? Voilà, pardon, les nombreux dérapages qu'il y a. Voilà, mais vous voyez, théologiquement, quelqu'un pourrait dire, mais j'ai la présence eucharistique de Jésus en moi, je vais me promener dans la rue comme ça, les gens, ça va. Non, il faut que la présence eucharistique soit reconnue, confessée, pour qu'ils disent, le Seigneur est là, et c'est là qu'il peut y avoir un acte de foi. Il faut que Jésus, dans le sein de Marie, je fais ce rapport, mais je crois qu'on a le droit de le faire, entre Jésus dans le sein de Marie et Jésus dans l'Eucharistie, il faut que Élisabeth confesse Marie avec l'aide de l'Écriture, parce qu'elle se réfère évidemment au texte de Déborah, au texte d'Esther, les références à l'Arche d'Alliance, etc. Il faut qu'elle soit confessée, que la présence de Jésus en Marie soit reconnue pour qu'il y ait ce chant de louange. Dans le chant du Magnificat, Marie va pouvoir saluer l'accomplissement de la promesse. C'est très important chez saint Luc, nous sommes au moment de l'accomplissement des promesses, un moment crucial de l'histoire. Dieu s'est souvenu de l'annonce faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Vous voyez, c'est la promesse faite à Abraham. Vous pouvez dire que la Bible est comme un grand arc qui relie la promesse faite à Abraham jusque à Marie et Jésus. Ce qui avait été dit à Abraham, c'est que ta descendance sera une bénédiction pour toute la terre. Le terme de descendance a un sens collectif, mais aussi individuel. Eh bien, cette descendance, c'est celle qui est dans le sein de Marie. La bénédiction va être apportée à l'humanité. Vous voyez ce thème de la bénédiction qu'on voyait tout à l'heure avec Zacharie. En venant habiter au milieu de nous, en choisissant l'humble Vierge de Nazareth pour être la mère de son fils, Dieu bouleverse l'ordre des choses. Une humble femme de Nazareth, et son nom était Marie, et elle va porter en elle le Fils de Dieu, il y a un renversement dans l'ordre des choses. Le temple de Jérusalem, le lieu de la bénédiction, qui ne peut plus donner la bénédiction, parce que Dieu va s'y prendre d'une manière totalement nouvelle, eh bien, on peut le dire, Dieu est celui qui abaisse et qui élève, c'est une expression qui revient souvent dans la Bible, Dieu est celui qui abaisse et qui élève, celui qui confond les puissants et qui relève les humiliés. On retrouve là aussi tout ce que le Magnificat de Marie est rempli de ces réminiscences bibliques. À travers cela, en renversant les puissants de leur trône et en élevant les humbles, Dieu révèle sa miséricorde. Le terme est au cœur du Magnificat, au début du Magnificat et à la fin, comme une inclusion. La miséricorde qui s'adresse à tous, contrairement à ce qu'on pense. On a fait du Magnificat un chant révolutionnaire en disant Marie, la jeune ado qui va dire les pauvres de la terre, levez-vous, les puissants vont être écrasés. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas le genre du bon Dieu de dire il y a des catégories bonnes et d'autres mauvaises. Ce n'est pas comme ça que Dieu s'y prend. Il élève les humbles, évidemment, il les relève, parce que les humbles ont besoin d'être relevés, ils ont besoin de trouver de la joie là où ils avaient de la tristesse. Mais les puissants, quand Dieu abaisse les puissants, quand il renverse les puissants de leur trône, ce n'est pas pour les humilier par vengeance, mais c'est pour qu'ils retrouvent leur juste place vis-à-vis de lui. Il fait miséricorde également aux puissants en lui apprenant le chemin de l'humilité. Je crois que c'est comme ça qu'il faut lire le Magnificat. La miséricorde de Dieu, on ne va pas la lire à notre manière. On la reçoit comme une miséricorde faite à tous les hommes. Ça me semble capital. Voilà, je termine. Troisième chapitre qui sera d'une certaine manière conclusif, Troisième partie, évidemment, comme vous, enfin, je dis comme vous, j'en sais rien, mais je devine, je me pose la question, ça fait beaucoup de références bibliques. Beaucoup, beaucoup, et on sait vrai qu'on s'y perd un petit peu. Et je pense qu'une des difficultés du texte, c'est de voir comment tout cela se superpose. C'est vrai que ici, plus qu'ailleurs, et on l'aura aussi au chapitre 2, Saint Luc recourt abondamment au texte de l'Ancien Testament. En lisant la naissance de Jean à travers la prophétie de Malachie, Malachie 3, il signifie que nous entrons dans le temps de l'accomplissement des promesses. En présentant Marie comme la nouvelle Sion, Sophonie 3, « Réjouis-toi Sion, le Seigneur est en toi comme un sauveur, comme un Yeshua, comme un Jésus. » En présentant Marie comme le temple en qui Dieu vient reposer, la nuée vient reposer. En présentant Marie comme la nouvelle arche d'alliance, comment m'est-il donné que l'arche vienne chez moi? Eh bien, Saint Luc manifeste la divinité du Seigneur. Sion, le temple, l'arche, porte en elle, en eux, la présence du Seigneur. D'ailleurs, on peut dire que la référence à Malachie, aussi le précurseur, a pour rôle d'annoncer l'arrivée du Seigneur. Donc, de façon plus indirecte, c'est aussi une affirmation de la divinité de celui que Marie porte en sa chair. En appliquant à Jésus les prophéties qui concernent le roi Messie, 2 Samuel 7, mais aussi le titre de fils, Luc nous révèle quelle est l'identité et quelle est la mission de Jésus. Et la dernière référence, on peut dire, c'est celle qui concerne le salut. Dans le sein de Marie, bénie es-tu entre les femmes, eh bien s'accomplit le salut définitif pour Israël. Alors, toutes ces références bibliques, admirablement bien orchestrées par Saint-Luc, conduisent certains exégètes à dire ce sont des récits qu'on appelle des midrash, une sorte de lecture de l'écriture à travers des petits récits qu'on va inventer pour faire passer un contenu théologique. On va faire passer une idée avec des textes et le récit est un peu comme une stratégie, une manière de faire passer des idées sympathiques. Vous savez, comme un conte qu'on va raconter pour faire passer des idées. L'exégèse rationaliste en Allemagne, au XIXe siècle, appelait ça des théologoumena, des théologoumènes, des constructions purement littéraires, sans fondement historique. Pas besoin de fondement historique, le but c'est le message. Voilà, Dieu vient habiter au milieu de nous, Marie porte en elle, voilà, le gage que Dieu ne nous abandonne pas, voilà. Mais la réalité historique, tout ça, évidemment, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait des miracles, c'est un peu ça le présupposé. Je vous renvoie au livre de René Laurentin, qui Les Évangiles de Noël. C'est un livre très amusant parce qu'il est un peu trompeur. C'est une jolie couverture rouge avec une image de Noël et puis les Évangiles de Noël. Donc on achète ça, on offre ça à quelqu'un, il dit tu verras, c'est très joli, c'est des belles histoires. En fait, c'est de l'exégèse, un peu sérieuse et tout. Moi, je savais que c'était un livre d'exégèse, mais quand je l'ai acheté, j'ai dit c'est agréable, ça fait un peu livre de Noël et tout. Voilà. Mais il y a des remarques tout à fait intéressantes, et notamment sur ce sujet. Luc, en réalité, a manifesté, vous vous en souvenez, nous avons parlé la première fois, il a manifesté son intention de rapporter des événements réels. Souvenez, j'ai parlé des pragmata, les événements qui se sont accomplis parmi nous. Parmi nous, ça veut dire qu'il y a des témoins. Donc on parle bien d'événements qu'on peut qualifier d'historiques, ancrés dans une réalité vérifiable. Luc, on peut le rappeler aussi, a reçu le témoignage de la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem, probablement de Marie aussi. On parle des frères de Jésus, c'est-à-dire ses cousins de Galilée, qui connaissaient ces événements. Si Luc les a rapportés, il faut bien se dire que les événements, s'ils n'avaient pas ce contenu théologique très fort, il n'aurait pas intéressé Luc. Donc c'est bien parce que il se passait à travers ces événements quelque chose de tout à fait nouveau que Luc les a rapportés. Mais comment exprimer cette nouveauté? Comment exprimer cette richesse de ce qui se passait? Il n'y a que les Écritures Quand on dit les Écritures, c'est l'Ancien Testament par définition, parce que le Nouveau n'existe pas encore. Il n'y a que les Écritures inspirées par Dieu qui sont en mesure d'exprimer des réalités inédites, ineffables, dont la signification transcende l'expérience commune, et seules les Écritures peuvent éclairer le lecteur. C'est sous l'action de l'Esprit-Saint, comme le dit Saint-Luc, que Élisabeth a pu mettre des mots sur ce qui se passait de façon cachée en Marie. C'est dans le même Esprit-Saint que Saint-Luc, à la lumière des prophéties de l'Ancien Testament, a pu rapporter les événements. Vous voyez, les faits sont premiers, ils précèdent les Écritures, mais le recours aux Écritures permet d'en pénétrer le sens. Il y a une espèce de jeu entre les deux. Voilà, je conclue. Ça va, parce qu'on est un peu plus tôt que les fois précédentes. Il y aura le temps, s'il y a des questions, de revenir sur telle ou telle partie. Voilà. Je vais citer un saint que les membres de la communauté Anne-Carême ont découvert il n'y a pas longtemps, saint Jean-Eudes, qui a écrit un très beau texte sur la Vierge Marie. Il écrit du Magnificat que, je cite, « Toutes ces paroles sont pleines de grands mystères ». J'aime beaucoup l'expression, les paroles du Magnificat sont pleines de grands mystères. Chaque mot est comme gonflé de suc, comme un grain de raisin, comme je ne sais pas quoi. Toutes ces paroles sont pleines de grands mystères. Un mystère au sens biblique, ça veut dire c'est la révélation du projet de Dieu. Et saint Jean, ajoute que le Saint-Esprit a coutume de passer par, je cite, « fort peu de paroles, mais qui contiennent une infinité de choses ». Ce que saint Jean-Eudes dit du Magnificat, c'est vrai en fait de tout ce chapitre 1, comme je vous l'ai dit, c'est d'une densité assez extraordinaire. Chaque mot, chaque phrase a une grande densité théologique. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu ce jeu dont je vous ai parlé entre le texte de l'Évangile et le lecteur. Si le lecteur accueille ces paroles dans son âme, dans son cœur, il se passe dans le lecteur aujourd'hui ce qui s'est passé il y a 2000 ans, en Zacharie, en Marie, en Élisabeth, c'est l'accueil de la parole du salut, à tel point qu'elle a pris chair dans le sein de Marie. Mais je cite un petit passage de saint Ambroise de Milan, qui développe cette idée, très importante pour saint Jean-Eudes d'ailleurs, mais dans la mystique chrétienne, de dire la parole veut comme naître en nous. Le Verbe veut prendre une nouvelle naissance en nous, dès lors que nous la laissons s'imprimer dans notre âme. Voilà, par la foi. Voilà, je m'arrête là. Voilà, après un grand coup de maillet, vous pouvez...
Voilà. J'ai tout entendu.
J'ai tout entendu. J'allais attester, il n'a pas dormi. Admirable.
Ah, j'ai dormi.
Alors, est-ce qu'il y a une question? Oui.
J'ai une question. Il me semble que Marie, comme elle était très intelligente, et très distraite et... remplie de Dieu, elle a posé une question